France Culture, Le Grand Tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis ce soir à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris qui présente une rétrospective du fameux photoreporter Ouidji, alors je crois que vous entendez sa voix derrière moi, qui a couvert pour la presse américaine toutes les scènes de crime et les faits divers de son époque, comme personne d'autre avant lui.
Bonjour, je suis Clément Chéroux, je suis le directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson et par ailleurs commissaire de l'exposition Ouidji, autopsie du spectacle, qui est présentée à la Fondation.
Alors justement, on vient d'entrer dans cette exposition, merci de nous y accueillir. Avant qu'on fasse le tour avec vous, est-ce que vous pouvez nous présenter ce photographe en quelques mots ? Qui est-il ?
Ouidji, c'est un personnage assez truculent, je dirais, un personnage de légende qui a lui-même construit son propre mythe. Il est né en 1899 en Ukraine et sa famille émigre aux États-Unis au début du XXe siècle. C'est quelqu'un qui va vivre dans les quartiers pauvres de New York, arrêter l'école très tôt, travailler, devenir photographe de rue, qui proposait des portraits aux enfants juchés sur un poney. Donc déjà, il y a une histoire originelle assez fascinante. Et puis après, il est devenu photojournaliste, un des grands photojournalistes du New York noir des années 30 et 40.
Alors, je crois, moi, n'avoir jamais vu une exposition Ouidji. Est-ce que c'est finalement assez rare qu'il soit exposé dans une fondation ou dans un musée ?
Alors, effectivement, ça faisait presque une quinzaine d'années qu'on n'avait pas vu Ouidji en France. Et donc, on est vraiment heureux de présenter une rétrospective assez complexe, hein, parce que, je dirais, complexe et complète, puisqu'on montre toute l'œuvre depuis les années 30 jusqu'à sa disparition en 1968.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter trois ou quatre photographies qui, selon vous, sont emblématiques de son travail ?
Alors, une série d'images déjà assez extraordinaires, hein, qui montrent bien le travail de Ouidji dans les années 30. Hein. C'est quelqu'un qui travaille en étroite collaboration avec la police. Il est branché en permanence sur la radio de la police, dans sa voiture, et donc il est toujours le premier à être présent sur les lieux. Quand on le dit comme ça, ça paraît une évidence, on a souvent entendu cette histoire, mais en fait, Ouidji est celui qui a créé cette légende, il est le premier à effectivement être
branché. À utiliser les fréquences depuis sa voiture.
Exactement. Et donc, ça fait qu'il est effectivement toujours présent sur les lieux, parfois même avant la police, et qu'il réalise des images assez directes, où on voit donc dans cette première période entre 35 et 45 des accidents de voiture, des immeubles en feu, des meurtres, des assassinats. On est juste après la prohibition, donc on est dans une époque où il y a encore beaucoup de règlements de compte à New York, de guerre des gangs, et Ouidji réalise ce type d'image.
Et pourquoi il s'intéresse sur justement ces scènes de crime ? Qu'est-ce qui lui plaît là-dedans et à qui sont destinées ces photographies ?
Alors, ces images qui sont essentiellement destinées à la presse, hein, la presse tabloïde, ce qu'on appelle la presse tabloïde, qui est en pleine effervescence à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose dans les années 30 qui se développe, qui crée une véritable économie. Et pour le dire très simplement, c'est comme ça que Ouidji gagne sa vie. Hein. Il gagne sa vie en faisant des photos pendant la nuit et au petit matin, après avoir tapé ses légendes dans le coffre de sa voiture, sur sa machine à écrire, il délivre ses photographies aux agences de presse et aux journaux, surtout, qui les publient. Je pense pas qu'il l'ait fait ça par goût. Hein. On a souvent dit que Ouidji était un voyeur, mais je pense que c'est plus complexe que ça. C'est quelqu'un qui comprend très très bien ce dont la presse a besoin et qui va produire des images qui sont parmi les meilleurs de sa génération. Il n'est pas le seul à faire ça, évidemment, mais il est celui, je dirais, qui a poussé l'art de la photographie de faits divers à un summum d'expertise.
Oui, vous parlez d'art quand on se retrouve devant cette série-là, qui s'appelle Flagrant délit, hein, c'est ça ? On voit bien à quel point le cadre, et j'allais dire presque la mise en scène, est première dans ces photos-là.
Alors en fait, Ouidji avait, parmi les multiples truc qu'il utilisait, la fréquence de la radio de la police. Il a eu aussi cette idée, finalement, de se poster tous les matins au moment où le fourgon de police qui avait circulé dans toute la ville pendant toute la nuit, le moment où il revenait au commissariat et on ouvrait les portes et on voyait donc des gens qui souhaitaient rester anonymes et se cacher derrière leur journal, derrière leur chapeau, et puis d'autres personnes qui étaient particulièrement heureuses de se mettre en scène eux-mêmes dans ces moments d'arrestation. On est là, par exemple, devant une photographie d'un jeune homme qui est habillé en femme. Hein. C'est une époque où, à New York, le fait de s'habiller en femme pour un homme était totalement prohibé et donc répréhensible. Et là, on a un personnage dont on sent qu'effectivement, il est arrêté, mais il est content de poser pour le photographe.
Un grand sourire sur son visage.
Voilà, une forme d'affirmation au sortir du fourgon de ce personnage-là. On est en 1939 et c'est un moment particulier dans l'histoire du travestissement à New York.
On vient de changer de salle.
Exactement, on est dans la deuxième partie de l'exposition qui s'appelle « La société des spectateurs » parce que Luigi a une particularité dans sa photographie, c'est qu'il inclut très souvent en premier plan soit d'autres photographes qui travaillent avec lui au même moment, soit des spectateurs, des gens qui sont en train de regarder la voiture accidentée, le feu ou le crime. Et là, on est devant une image qui s'appelle « Balcony Seats at a Murder » qui date de 1939, donc on pourrait traduire ça par « place au balcon pour regarder un meurtre ». On voit un petit café italien dans un des quartiers de New York, et il y a un corps qui est étendu sur le pas de la porte, qu'on voit ici. On a la police autour, et puis surtout, dans l'immeuble où se trouve le meurtre, on voit qu'il y a des gens à la fenêtre qui sont en train de regarder ça. Et ce que nous dit Luigi à travers ce titre, « place au balcon pour regarder un meurtre », c'est finalement cette idée que la scène de crime est une scène de théâtre. Hein. Et c'est pour ça qu'il emploie ce terme de siège de balcon, parce que c'est le terme qu'on emploie au théâtre ou à l'opéra à cette époque-là. Et de cette manière, c'est ça, je dirais, la grande intelligence de Luigi, il nous montre que, effectivement, le fait divers est transformé par la presse américaine en une forme de spectacle.
Puis aussi toute cette question sur le regard. Évidemment, le photographe est celui qui regarde et qui cadre. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'on a aussi des regardeurs dans la photo qui regardent eux-mêmes le crime qui vient juste d'être commis. Il y a une espèce de mise en abîme. Quoi.
Exactement. C'est vraiment une forme de mise en abîme. Et je pense que de sa part, c'est lié à la volonté de dire à celui qui va ensuite regarder l'image dans le journal dans laquelle il va la découvrir, de dire « Regardez, vous êtes vous-même en position de spectateur comme ceux qui regardent à l'intérieur de l'image. » Donc il met le doigt sur ce voyeurisme, finalement, qui fait la presse à scandale, la presse tabloïde de ces années 30 et 40.
On pourrait s'arrêter sur plein d'images.
Mais oui, il y a plein d'images qui attrapent l'œil.
Extraordinaire. Peut-être, voilà, ça c'est une image assez fascinante.
Ah oui, très différente de ce qu'on vient de voir.
Effectivement, alors là en fait, Luigi photographie ces grands sujets, je dirais, dans les années de 1935 à 1945. C'est vraiment les crimes, les feux, les accidents de voiture. C'est ces grands sujets, mais on se rend compte qu'à partir d'un certain moment, il va de plus en plus se focaliser sur les regardeurs et sur les spectateurs. Ici, on a un crime. On montre à côté de la photographie la page du journal dans lequel cette image a été publiée. Et on voit que Luigi a photographié non seulement le cadavre qui gît sur le trottoir de New York, mais qu'il a aussi photographié ceux qui sont en train de regarder ce crime. Et là, ce qu'on voit, et c'est ce qui intéresse Luigi, c'est toute la palette d'émotions face au crime, face au meurtre, face au cadavre. On a une femme qui pleure, on a un jeune homme interloqué, on en a un autre dont on sent qu'il est énervé, qu'il pousse les gens devant, on a un autre qui est en train de rire. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que le PM Daily, qui publie cette image en 1941, va montrer en petit l'image du crime, et presque en grand, ça occupe plus de place, presque la moitié de la page, montre cette palette d'émotions, parce que c'est effectivement ça qui intéressait le photographe.
On parlait de théâtre dans la salle précédente. Là, il y a quelque chose de très cinématographique. Hein. On reste dans ce rapport artistique à l'image.
Tout à fait. Uji était d'ailleurs autant intéressé par les spectateurs des théâtres que par ceux des cinémas. Il les a d'ailleurs beaucoup photographiés. On a juste à côté une série de photographies qui sont faites dans un cinéma, des enfants qui sont en train de regarder un film. Et Uji les a photographiés en infrarouge. C'est-à-dire qu'il n'était pas vu par ses enfants quand il les photographiait, parce que précisément, il voulait capter leur émotion devant le film. Il dit dans une interview qu'il y avait beaucoup plus d'émotion sur le visage des enfants qui regardaient le film que chez les acteurs du film lui-même. Et c'est ça qui l'intéressait.
Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et pour cette visite, on peut voir l'exposition jusqu'à quand ?
L'exposition est visible jusqu'au 19 mai, donc encore quelques mois pour visiter l'exposition.
Merci beaucoup.